RFI 5h à Paris, 4h temps universel, 6h à Kiev. Toute l'actualité internationale avec vous, Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Paul, bonjour à tous. À la une, les alliés de l'Ukraine réunis à Paris hier et ils se sont tous prononcés contre la levée des sanctions contre la Russie. La question des futures garanties de sécurité à apporter à Kiev demeure. Nous reviendrons également sur ces annonces de Donald Trump, les 25% de droits de douane pour toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis, à des mesures qui devraient coûter cher aux constructeurs du monde entier, en particulier en Allemagne. J.D. Vance, lui, est au Groenland, territoire autonome appartenant au Danemark sur lequel lorgne Donald Trump. Le vice-président américain est attendu sur la base américaine de Pitufik. Et puis deux ministres congolais en Afrique du Sud, objectif réaffirmer l'importance des relations entre Kinshasa et Pretoria, au cœur des enjeux, notamment la coopération militaire entre les deux pays. La coalition des volontaires a répondu présente. Une trentaine de dirigeants étaient réunis hier à Paris pour un nouveau sommet sur l'Ukraine en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour finaliser les garanties de sécurité à apporter à Kiev en cas d'accord de paix avec la Russie et deux jours après l'annonce par les États-Unis d'un accord sur la fin des hostilités en mer Noire. Et si des questions restent en suspens après cette réunion, tous se sont dit contre la levée des sanctions contre Moscou, Romain Lomarisky.
Encore une fois, les alliés de l'Ukraine sont unanimes. Non, ils ne comptent pas lever les sanctions contre la Russie, même si de son côté, Washington l'envisage. C'est là la principale information à retenir à l'issue de ce sommet de Paris, car si l'unanimité est de mise concernant les sanctions, ce n'est pas le cas en ce qui concerne le déploiement d'un contingent en Ukraine comme garantie de sécurité en cas d'accord de paix avec la Russie. Une idée partagée par Londres et Paris, mais même si tous les alliés ne sont pas prêts à suivre cette initiative, Emmanuel Macron a confirmé qu'une mission exploratoire franco-britannique serait menée prochainement en Ukraine pour étudier la possibilité de déployer ce que le président français appelle une force de réassurance. Pour le président ukrainien, il y a encore beaucoup de questions, mais peu de réponses concernant cette force, d'où l'importance de mener une mission exploratoire. Après plus de 3 heures de discussion, Volodymyr Zelensky a tenu à saluer le soutien infaillible de ses alliés et les nombreuses propositions faites, notamment concernant la défense anti-aérienne ou encore les investissements dans l'industrie de défense ukrainienne. Un président ukrainien qui, avant de quitter Paris, a tenu une conférence de presse, conférence au cours de laquelle il a appelé les États-Unis à réagir après les dernières frappes russes.
Romain Lemaresquié. Et parallèlement à ce sommet, Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés hier de violation du moratoire concernant les infrastructures énergétiques. La plupart des habitants de Kherson dans le sud de l'Ukraine se sont retrouvés sans électricité après une frappe qui a fait 2 morts. Le ministère russe de la Défense a affirmé de son côté que 3 installations avaient été visées sur le sol russe et en Crimée annexée, ce que Kiev a démenti. De nouvelles frappes qui ont poussé Volodymyr Zelensky à hausser le ton et demander aux États-Unis de réagir. Et après l'Ukraine, Emmanuel Macron se saisit du dossier du Proche-Orient. Aujourd'hui, le président français reçoit son homologue libanais, Joseph Aoun. C'est son premier déplacement officiel en Occident depuis son élection en janvier. Et ils seront rejoints en visioconférence lors de leur entretien par le président syrien intérimaire, Ahmed Al-Sharet, pour évoquer ensemble la sécurité à la frontière syro-libanaise. Il est 3:00 à New York, aux États-Unis, où un regain d'inflation semble inévitable. C'est en tout cas ce que pense la présidente de la Fed de Boston, la réserve fédérale. Après les multiples annonces de droits de douane par Donald Trump, la dernière en date, 25% pour toutes les voitures venant de l'étranger dès mercredi prochain, ce qui a provoqué la colère des constructeurs dans le monde, mais plus particulièrement en Allemagne, déjà en récession depuis 2 ans, l'automobile est un symbole économique du pays. La correspondance à Berlin de Ludovic Piétenu.
La voiture, c'est ce que l'Allemagne exporte le plus. Un peu moins qu'avant vers la Chine, supplantée l'an dernier par les États-Unis, premier marché des marques allemandes, Sonali Chaudhry est économiste au DIW, Institut de recherche économique à Berlin.
Environ 13% des exportations de voitures neuves allemandes ont été envoyées vers les États-Unis en 2024. Donc il ne faut pas sous-estimer les conséquences qui peuvent résulter de ces droits de douane. À court terme, les véhicules continueront à être achetés même s'ils sont plus chers. Et à moyen terme, il faudra peut-être s'attendre à une baisse de la demande américaine pour les voitures étrangères.
Un autre institut économique a évalué l'impact à 0,2% du produit intérieur brut. Hildegarde Müller n'y croit pas. Elle est la présidente de la VDA, l'association de l'industrie automobile allemande.
Je pense que les économistes sous-estiment les faits, mais aussi les conséquences. Les tensions commerciales conduisent à des conflits qui ne cessent de s'amplifier jusqu'à la fermeture du marché. Et si nous considérons que 70% des emplois en Allemagne sont dus à la force de nos exportations, cela montre à quel point il faut s'inquiéter des conflits commerciaux.
Le monde entier en subira les conséquences, y compris les États-Unis, dit la présidente de l'industrie automobile allemande. Ludovic Piétonu, Berlin, RFI.
Et autre ambition affichée par Donald Trump, faire du Groenland appartenant au Danemark un territoire américain. Il nous le faut, a-t-il déclaré juste avant la visite de son vice-président J.D. Vance et de son épouse sur place. Ils doivent se rendre aujourd'hui sur la base américaine de Pitufik, la seule emprise américaine dans l'Arctique, relativement méconnue, Vincent Souriau, mais d'une importance capitale pour l'effort de défense américain.
Pitufik, c'est une relique de la guerre froide, une base aménagée dans les années 50 après la signature d'un accord de défense entre le Danemark et les États-Unis. Washington, qui paye un loyer au gouvernement danois pour occuper ces lieux, y a déployé des radars très sophistiqués, une station de contrôle satellitaire, un port en eau profonde et un aéroport qui accueille plus de 3000 vols par an. Au plus fort des tensions avec l'URSS, jusqu'à 10 000 soldats y ont stationné. Ils ne sont plus qu'une grosse centaine aujourd'hui, mais Pitufik reste un atout majeur pour la Maison Blanche, seul avant-poste américain dans l'Arctique, à portée de tir de la Russie. Si un missile russe ou chinois était tiré vers l'Amérique du Nord, c'est cette base du Groenland qui donnerait l'alerte avant toutes les autres, grâce à sa localisation unique à 1500 petits kilomètres du pôle Nord.
Vincent Souriau. Et hier, depuis Mourmansk, Vladimir Poutine s'est exprimé sur le dossier du Groenland. Pour le président russe, les plans de Donald Trump sont sérieux, mais il dit s'inquiéter que l'Arctique ne se transforme en tremplin pour d'éventuels conflits. Le chef de la diplomatie américaine, lui, fait part de ses craintes face à la situation en Turquie, en proie à des manifestations depuis le 19 mars et l'arrestation du maire d'Istanbul, principal opposant du président Recep Tayyip Erdogan. Près de 2000 personnes ont été interpellées en 9 jours. Les autorités ont également expulsé hier un journaliste de la BBC venu couvrir les manifestations dans le pays pour menace à l'ordre public. 10 journalistes turcs arrêtés en début de semaine ont quant à eux finalement été libérés. Il est 6h07 à Pretoria et dans un contexte de renforcement des relations entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, le ministre de la Défense congolais Guy Kabombo Muondamvita et celle des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner étaient en Afrique du Sud cette semaine. Objectif, renforcer les liens, particulièrement dans le domaine de la défense, selon un conseiller de Félix Tshisekedi, alors que la SADC a récemment décidé du retrait progressif de ses troupes de la mission SAMIDRC au sein de laquelle l'Afrique du Sud avait le plus de soldats engagés, Valentin Hugues.
Aux côtés de son homologue sud-africain, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba-Wagner, rappelle l'importance de la solidarité entre Kinshasa et Pretoria.
Dans l'une des périodes les plus difficiles pour notre pays, une période qui met à l'épreuve nos relations et nos alliances, vous êtes resté fermement et indéfectiblement à nos côtés, malgré les pertes tragiques que votre pays a subies.
Référence aux 14 soldats sud-africains morts au combat lors de la prise de Goma en janvier. Certains étaient déployés dans le cadre de la mission régionale de maintien de la paix de la SADC. Depuis, la SADC a décidé le retrait progressif des troupes en faveur de plus de dialogue. Ronald Lamola, ministre des Affaires étrangères sud-africain.
Ce retrait ne signifie pas qu'on abandonne la RDC. La décision a été prise par un organisme multilatéral. En tant qu'Afrique du Sud, nous continuons à travailler avec la RDC au niveau bilatéral pour approfondir nos relations sur divers aspects qui comprennent la coopération militaire.
Et la coopération militaire, c'était l'enjeu de cette autre réunion entre les ministres de la Défense congolais et sud-africains, avec pour objectif de renforcer les capacités de défense stratégique entre les deux pays. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Le roi Charles III, brièvement hospitalisé hier, c'est ce qu'a annoncé le palais de Buckingham dans la soirée. Le monarque a subi des effets secondaires liés à son traitement contre le cancer, le forçant à alléger son agenda. Retour en France avec un verdict attendu aujourd'hui, celui du féminicide de Chaynaise, brûlée vive devant chez elle en 2021 près de Bordeaux. L'accusé, Mounir Bouta, son conjoint, qui s'est exprimé hier pour la deuxième fois depuis le début de son procès, lundi devant la cour d'assises de Gironde. Compte rendu d'audience avec Noémie Leweller.
Mounir Bouta écarte les questions très factuelles de la présidente de la cour d'assises de Gironde. Il répète en boucle qu'il est la victime d'une association de malfaiteurs. L'accusé s'entête dans un délire de persécution, un délire paranoïaque, comme l'ont diagnostiqué les deux psychiatres et le psychologue qui l'ont expertisé. Son avocate, maître Anaïs Divot, compte plaider aujourd'hui en ce sens.
Les experts ont retenu une altération du discernement et le premier expert que nous avons entendu a retenu également une entrave à ses actes. Et effectivement, ça fera nécessairement partie des explications parce que le but d'un procès, c'est de comprendre un passage à l'acte, c'est de comprendre comment on a pu en arriver là et c'est aussi de voir quelle peine va devoir être prononcée.
Les experts estiment néanmoins qu'il était conscient de son crime au moment des faits. Mais pour Mounir Bouta, c'est Chaynaise qui aurait dû lui présenter des excuses pour l'avoir trompé, ce que l'enquête a démenti. À quelques mètres de lui, les parents de la victime sont évidemment ébranlés. Kamel et Johar Daoud.
Il a assassiné après l'individuement social. Il n'a pas de remords celui-là. Il n'a même pas une conscience.
Quand elle était brûlée, ma fille s'est brûlée moi aussi dedans. Mais je souffre. Mais j'ai le courage pour mes petits-enfants, c'est tout.
Mounir Bouta encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Noémie Leweller, Bordeaux, RFI.
À Paris, le parquet a requis une peine qu'il qualifie de ferme, juste, dissuasive au regard de la gravité des faits. Au procès de Nicolas Sarkozy, l'ancien président jugé pour le financement présumé libyen de sa campagne de 2007, 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Sur ses réseaux sociaux, il a dénoncé en fin de journée l'outrance de la peine réclamée. On termine ce journal en forêt. Ce ne sont ni des animaux, ni des plantes et il en existe plus de 2,5 millions de variétés. On parle des champignons aujourd'hui menacés. Sur les 1300 espèces répertoriées sur la liste rouge des espèces en danger établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature, 411 champignons sont menacés d'extinction. Stéphanie Schuller.
Ils savent se faire discrets, la plupart vivent cachés sous terre, mais les champignons sont essentiels pour la vie en surface. Depuis 400 millions d'années, ces organismes ont créé des symbioses avec les autres êtres vivants. Ils garantissent ainsi la bonne santé de nos sols, permettent aux plantes d'absorber des nutriments et aux arbres de communiquer entre eux et fonctionnent comme le composteur de la nature. Les humains les utilisent pour la production d'aliments mais aussi de médicaments, pour la fermentation, pour nettoyer des sites contaminés. Bref, les champignons rendent un nombre incalculable de services. Mais de nombreuses espèces sont aujourd'hui en déclin critique. À cause des produits chimiques utilisés dans l'agriculture, à cause de la destruction de leur habitat naturel par l'expansion des villes, de la déforestation et des effets du changement climatique comme les incendies. Les scientifiques de la prestigieuse Union internationale pour la conservation de la nature appellent donc à un sursaut mondial et à une première mesure d'urgence, laisser plus de bois mort dans les forêts pour sauver les champignons, ces alliés indispensables de la vie sur Terre.
Stéphanie Schuller, il est 12h13 à Pékin, 13h à Rio de Janeiro, 3 heures de plus en temps universel.
Alban Le Prince.
Et merci d'écouter RFI. Au sommaire de ces 20 prochaines minutes, nous irons en Chine où le taux de chômage chez les jeunes semble enfin baisser, même s'il flirte toujours avec les 16%. La faute à des jeunes toujours plus diplômés. Il devrait y en avoir 12 millions de plus cette année. Nous rejoindrons aussi la correspondante de RFI en Ukraine, Emmanuelle Chasse, qui se trouve en ce moment à Soumy, ville pilonnée quasi quotidiennement par l'armée russe. Elle est allée à la rencontre des habitants. La guerre, il en sera aussi question avec l'invité culture du jour, l'écrivain israélien Dror Mishani. Il publie un livre sous forme de journal intime qu'il a commencé à écrire au 7 octobre, jour des attaques du Hamas. Dans le Conseil Santé, on apprendra comment se défendre face aux attaques verbales avec l'invité de Chantal Laureau. Et puis comme chaque matin, on terminera en musique avec le choix de la programmation de RFI. On part au Brésil aujourd'hui avec Joao Selva. Notre reportage international nous emmène donc en Chine ce matin où, après avoir atteint un pic de à 18,8% en août dernier, le taux de chômage des jeunes commence enfin à baisser. 15,7% des 16-24 ans n'avaient pas d'emploi au mois de décembre, soit 3 points de moins. En cause, l'afflux de nouveaux diplômés. On en attend encore plus de 12 millions cette année et le fossé continue de se creuser entre les attentes des demandeurs d'emploi et les offres et opportunités disponibles. Cléa Broder, envoyée spéciale permanente de RFI à Pékin, nous emmène dans une foire à l'emploi dans la capitale chinoise.
Organisée dans un centre commercial, cette foire réunit une centaine d'entreprises. Ici, des milliers de jeunes Chinois, CV en main, parcourent les différentes allées. Yue, jeune diplômé de 22 ans, estime qu'il est bien plus difficile pour les jeunes de trouver un emploi aujourd'hui que pour les générations précédentes.
Nous sommes nombreux et le coût de la main-d'œuvre a diminué. Cela, combiné au nombre limité de postes, rend la tâche plus difficile pour les personnes ayant un niveau d'éducation similaire au mien. Et puis le report de l'âge de la retraite a un impact sur l'emploi. Il n'y a pas beaucoup de places et tous les postes sont déjà occupés. La plupart des postes disponibles sont dans le domaine de la vente, ce qui ne correspond pas vraiment à ce que je recherche. Mon autre préoccupation, c'est de savoir si une entreprise est digne de confiance ou non.
Li, une jeune mère de jumeaux, espère pouvoir revenir sur le marché du travail après un long congé maternité.
Je travaillais dans le domaine juridique, mais il n'y avait personne pour s'occuper de mes jumeaux à la maison, alors j'ai dû démissionner. Aujourd'hui, les employeurs s'intéressent d'abord à l'âge. Les premières conversations se passent bien, mais dès qu'ils entendent mon âge, ça devient un peu gênant.
Et elle trouve que c'est un énorme défi à relever.
Je le comprends très bien du point de vue de l'entreprise, c'est logique, mais du point de vue d'une femme, c'est vraiment difficile. Les femmes apportent toujours une contribution silencieuse, qu'il s'agisse des tâches ménagères invisibles ou de la prise en charge des enfants. Et bien sûr, les entreprises vous demanderont « Que ferez-vous de vos enfants ?» Si vous avez un enfant, ils vous demanderont si vous avez l'intention d'en avoir un autre. Et si vous en avez deux, ils supposent que vous n'en aurez probablement pas d'autre.
Chen est allé à plusieurs foires à l'emploi sans succès. Ce jeune homme de 23 ans espère que le gouvernement va mettre les bouchées doubles pour aider la jeune génération.
Je suis déçu, très découragé. Le taux d'emploi des jeunes diplômés est assez bas en ce moment et la pression est intense. Si vous ne vous préparez pas aux études supérieures, vous vous préparez aux examens de la fonction publique qui sont encore plus stressants. Pour ceux qui essaient de trouver un emploi directement, c'est encore plus difficile. J'espère que le gouvernement ou les écoles pourront organiser davantage de salons de l'emploi, peut-être plus fréquemment dans les écoles ou dans la société. S'il pouvait y avoir deux ou trois grands salons de l'emploi par mois, cela nous donnerait plus de chances de trouver du travail.
Le chômage des jeunes en Chine a de lourdes conséquences, à la fois sur l'économie et sur la société. Et face à ces défis, Pékin reconnaît l'urgence de réformer le marché de l'emploi en misant sur plus d'opportunités de travail, des aides financières telles que le remboursement d'assurance chômage ou la baisse d'impôts, et enfin un soutien à l'entrepreneuriat. Cléa Broders, Shou Xianyuan, Pékin, RFI.
On vous en parlait un peu plus tôt dans le journal. Une trentaine de dirigeants étaient réunis hier à Paris. Les alliés de l'Ukraine qui se sont tous dit contre la levée des sanctions qui visent la Russie. Une mission franco-britannique se rendra aussi dans les prochains jours, a fait savoir Emmanuel Macron, le président français. Objectif, préparer ce que sera le format de l'armée ukrainienne qui reste selon lui la principale garantie de sécurité du pays. Dans le même temps, contrairement à leurs engagements, la Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusés d'avoir violé le moratoire sur les infrastructures énergétiques avec de nouvelles frappes. Bonjour Emmanuel Chaz.
Bonjour.
Vous vous trouvez à Soumy, ville régulièrement visée par l'armée russe, ce qui a encore été le cas cette semaine. Elle a été quasi quotidiennement pilonnée. Que vous ont dit les habitants que vous avez rencontrés ?
D'un côté, on sent une ville sous haute tension. Vous savez que la région de Soumy est voisine de celle de Koursk, où l'armée ukrainienne a perdu une grande partie du terrain qu'elle occupait depuis l'été dernier. Ça se ressent jusque dans la ville de Soumy, où on va observer, tout comme dans les villes de la ligne de front de l'Est, une forte présence militaire et un risque accru de frappe. Et de l'autre, on va voir cette population qui, malgré ce risque de frappe, malgré les missiles et les drones qui tombent régulièrement ici, eh bien une population qui essaye de continuer à vivre malgré tout.
Emmanuel, vous nous parlez de Koursk. Quelle est la situation sur le front ?
L'occupation d'une partie de la région de Koursk, c'était un atout stratégique pour l'Ukraine en cas de négociation. L'armée ukrainienne avait créé la surprise en août dernier en s'emparant de ces territoires, mais elle a payé depuis un prix très élevé en hommes et en matériel pour en garder le contrôle. Et ces dernières semaines, eh bien, ce front s'est effondré avec notamment la perte de Soudja. Côté ukrainien, c'est le silence radio, le silence opérationnel comme de mise lors des grands tournants de cette guerre. Les Ukrainiens semblent encore contrôler une bande de territoire dans la région, mais elle est mince en comparaison avec l'occupation russe en Ukraine. Et Volodymyr Zelensky avertit même que l'armée russe préparait une nouvelle offensive, non seulement contre la région de Soumy, mais aussi contre celle de Kharkiv et de Zaporijjia.
Alors, côté diplomatique, on le sait, les négociations avec les États-Unis ont mené à des engagements cette semaine. Mais la Russie, une nouvelle fois, a posé ses conditions. L'Ukraine, elle, a tendance maintenant à se tourner davantage vers Bruxelles que vers Washington.
Au-delà des effets d'annonce des États-Unis et des grands espoirs que suscite en Occident toute annonce de pourparlers en vue de mettre fin à la guerre, l'Ukraine continue d'œuvrer à son plan pour la victoire tel qu'il est présenté à ses alliés. Et depuis le passage à l'administration Trump, ces derniers, et notamment les pays européens, se mobilisent. La question de déployer des forces de maintien de la paix est discutée, ce qui était encore impensable il y a quelques mois seulement. Et l'Ukraine reçoit également de nouvelles promesses d'aide militaire et humanitaire, car ici, sur le terrain, rien n'a changé. Les frappes et les offensives russes continuent et l'Ukraine, elle, continue de résister.
Merci Emmanuel Chaz, depuis Soumy en Ukraine pour RFI. L'invité culture du jour parle lui aussi de la guerre, mais de celle qui oppose Israël au Hamas. L'écrivain Dror Mishani, dès le 7 octobre, jour des attaques du Hamas, il a tenu un journal pour raconter son quotidien en Israël. Le texte traduit en français vient de sortir, ça s'appelle « Au ras du sol, journal d'un écrivain en temps de guerre ». Un témoignage exceptionnel pour la paix. Dror Mishani est au micro RFI de Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Dror Mishani.
Bonjour Catherine.
Comment allez-vous ?
Bon, maintenant, assez bien, parce que je suis à Paris, mais normalement, pas très bien. C'est vrai que la guerre a commencé il y a presque un an et demi, mais moi, je me sens qu'on y est pour longtemps, et peut-être même que le pire est devant nous.
D'octobre 2023 à avril 2024, vous avez donc tenu ce journal d'écrivain suite à la demande d'un journal suisse d'abord et puis de votre éditrice allemande. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'écrire ce journal, Dror Mishani ?
Je ne savais pas ça à l'époque, mais en fait, ce journal m'a vraiment sauvé. Parce que après le 7 octobre, j'ai arrêté, bien sûr, d'écrire un roman. J'étais en train d'écrire un roman, mais j'ai arrêté complètement. Et dans les premières semaines qui ont suivi le 7 octobre, j'ai fait rien à part de regarder les nouvelles, de sombrer dans la dépression. Et le journal m'a permis, en quelque sorte, un recul vis-à-vis de la guerre, parce qu'il y avait une heure ou deux heures par jour où j'étais enfermé dans ma bibliothèque, qui est aussi ma chambre forte, avec les livres que j'ai lus à l'époque et qui m'ont aidé. Et donc c'était vraiment ce journal qui m'a sauvé, et je crois que c'est pour cela que j'ai décidé de le faire.
C'est donc ici le quotidien d'un Israélien qui vit à Tel Aviv, d'un époux, vous êtes marié avec une catholique polonaise, d'un père de famille et d'un écrivain. Mais avant tout, j'ai envie de dire d'un homme pacifiste. Parce que dès le début, vous avez écrit cet article très engagé, dont, si vous me permettez, j'aimerais lire cet extrait. « Ne pas raser, ne pas écraser, ne pas se venger. Peut-être faut-il reconnaître la puissance du coup qui nous a été porté et la profondeur de notre douleur. » Reconnaître la défaite. Comment est-ce que ce texte a-t-il été accueilli, Dror Mishani ?
Quand je l'ai publié, c'était 9 octobre ou 10 octobre. C'était publié à Haaretz. Donc Haaretz, déjà, est un journal de gauche. Mais la plupart des lecteurs ont cru que j'étais fou ou naïf, que la guerre était obligatoire à ces moments-là. Mais maintenant, quand je lis cet article, je suis sûr qu'on ne devait pas aller à la guerre. parce que nous faisons les négociations avec le Hamas pour relâcher les otages, ce qu'on pourrait faire il y a un an et demi. Et ce qu'on a fait, entre-temps, était de détruire Gaza. Ça, c'est pas une victoire pour moi. Et est-ce qu'on a effacé notre douleur? Non, je crois pas. Alors, je crois que la guerre a vraiment rien fait, à part de milliers de morts palestiniens et israéliens aussi.
Merci beaucoup.
Merci, Catherine.
Dror Michani, je rappelle donc le titre de ce livre, « Au ras du sol, journal d'un écrivain en temps de guerre ».
Entretien à retrouver en intégralité aujourd'hui dans Littérature sans frontières sur RFI. Rendez-vous à 13h30 en universel avec Catherine Fruchon-Toussaint.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Ça nous est déjà tous arrivé, être confronté à une personne méchante, agressive, se faire insulter, critiquer. Mais comment y répondre? Comment se défendre et réagir face aux agressions verbales? C'est la question que pose Chantal Leroux à son invité ce matin.
Docteur Jérôme Palazzolo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, professeur des universités en psychologie clinique et médicale, et vous venez de publier le livre « Petit traité de self-défense psychologique, comment gérer l'agressivité » chez Odile Jacob. Docteur Palazzolo, quelle est la meilleure façon de réagir face à une agression verbale, face à quelqu'un qui vous insulte, vous agonie d'injures ou tente de vous humilier?
Eh bien, en fait, la réaction se fait en trois temps, c'est-à-dire en premier temps, c'est déjà essayer de se centrer sur soi, essayer de voir comment soi-même on réagit, parce qu'on a tendance à réagir de la même manière. Si vous avez quelqu'un qui vous agresse, ben vous avez tendance, vous, à être agressif aussi. C'est ce qu'on appelle le système de neurones miroirs en neurosciences. Donc, première chose, c'est d'essayer de voir comment soi-même on va réagir. Est-ce qu'on est tendu? Est-ce que le souffle s'accélère? Est-ce que le cœur s'accélère? Est-ce qu'on serre les poings, etc.? Deuxième chose, c'est d'essayer d'évaluer la personne qui vous agresse. C'est-à-dire d'essayer de voir en quoi cette personne est en droit de vous agresser. Est-ce que vous avez fait quelque chose qui lui a posé problème? Est-ce que vous avez dit quelque chose qui lui a fait de la peine? Et dans ce cas-là, est-ce qu'elle vous agresse simplement pour être entendue, par exemple? Et puis, troisième temps, c'est d'essayer d'évaluer la relation. Est-ce que c'est une relation problématique? Est-ce qu'il y a danger pour vous? Est-ce que l'autre cherche à prendre l'ascendant pour vous? Et en fonction de ces trois analyses, eh ben, d'essayer de donner la réponse la plus adaptée possible.
Mais quand on se fait agresser verbalement, tout va très vite. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de suivre ces trois étapes?
Et c'est l'objectif, c'est-à-dire que ces étapes, ben, elles prennent plus de temps à expliquer qu'à réaliser. C'est ce que j'explique un peu dans l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a différentes techniques qui peuvent être mises en place dans l'immédiateté. C'est vraiment ce que les anglo-saxons appellent le stop, think and go. C'est-à-dire que lorsqu'on sent qu'on n'est pas bien, que ça va pas, qu'on se sent agressé, ben, dans la tête, on se dit stop. Think, on analyse, on essaye de voir comment on l'évoquait, comment on se sent, comment l'autre se comporte. Et puis go, à ce moment-là, on envoie la réponse. Et l'objectif, c'est que ça se fasse vraiment en quelques secondes.
Merci beaucoup, docteur Palazzolo. Tout à l'heure, question de femmes dans Priorité Santé. Aujourd'hui, l'endométriose, avec au micro Laurence Garcia.
Et avant le retour de l'actualité africaine, dans moins de 3 minutes, de la musique avec le choix de la programmation de RFI et l'un des meilleurs ambassadeurs de la musique brésilienne, João Selva, c'est Maré Vai Subir sur RFI.
Uma canção pra falar. Poucas notas pra falar, meu bem. São palavras pra falar. Com você é importante. Tanta história pra contar. Lado a lado caminhar faz bem. Sem você não sei trilhar. Estrada aberta do presente.
Agora chega,
guiados pelo sol.
Nunca se separa,
eu e você.
Agora vem brilhar,
juntos na luz do sol.
Nunca se separa,
tão simplesmente.
c'était Mareva et Soubir de Joao Selva. Il sera en concert le 28 mai à Figeac en France, le 7 juin prochain à Lyon ou encore le 19 juin à Munich en Allemagne. Restez avec nous sur la Radio du Monde. Dans une minute, c'est le retour de l'actualité africaine.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
L'hydrogène vert serait magique pour la transition énergétique. 60 pays ont déjà investi dans des gigaprojets comme en Uruguay. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? L'hydrogène vert, miracle ou mirage, nous faisons le point avec notre invitée Aline Nipper.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Les réseaux sociaux qui ont permis de grandes mobilisations, un accès facilité à l'information, sont devenus de plus en plus toxiques. Avec le chercheur Julien Nocetti du centre Géode de géopolitique de la datasphère, nous évoquons l'évolution des différentes plateformes numériques.
Les dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h30 TU sur RFI.